Cette dernière chanson du travail est l'inspiration tout à fait mythienne. Il y a aussi un texte de Nietzsche qui dénonce la glorification, l'hypocrisie du moral du travail qui dissimule aux travailleurs, bien entendu, mais à toute la société, que le travail n'est jamais qu'une tactique policière pour détourner littéralement l'homme de l'art, qui est l'antithèse absolue du travail. L'art seul libère la créativité humaine. Le travail confisque littéralement le rêve, l'imagination, et il soumet l'individu à un rythme de vie, à un style de vie, à un mode de vie qui est tout à fait au contraire, qui s'appelle l'aliénation humaine simplement, terme appartenant encore au vocabulaire hors jeu historiquement, mais comme du coup, on ne peut pas se débarrasser totalement de certains concepts. Mais pourquoi le surréalisme n'a-t-il pas pu tenir justement ses positions? Est-ce qu'il n'y a pas là encore un caractère outrancier, un excès qui se conçoit très bien sur le plan de la proclamation, sur le plan de la théorie, mais qui n'arrive absolument pas à prendre place dans la réalité, dans une pratique quelconque? Est-ce que le malheur du surréalisme n'est pas finalement d'isoler l'art, la poésie en particulier de la vie, et ne sommes-nous pas un peu en contradiction avec ce que Cervantes nous a appris, avec cette complémentarité entre l'extravagance du Quichotte et le bon sens, la lourdeur paysanne de ce Quichotte?
C'est vrai qu'il y a là une sorte de paradoxe, mais j'ai tendance en tout cas à essayer de dire que là aussi il repose sur des apparences, parce qu'en définitive, la démesure de l'exigence surréaliste était telle qu'elle ne pouvait pas s'inscrire concrètement dans les faits. C'était un rêve utopique que de prétendre casser le moule de la réalité pour rebâtir un monde tout à fait différent. Je veux dire que les rêves, les aspirations, les injonctions, les exigences des promoteurs du manifeste du surréalisme ne tenaient pas compte des pesanteurs sociologiques, de l'organisation de la société, du travail à la chaîne, etc., qui sont des réalités. Bon, mais faut-il en conclure pour autant que le surréalisme est mort? Le surréalisme n'est pas mort parce que si l'on veut bien tenir compte du fait que le surréalisme est avant tout un état d'esprit, je crois qu'il vit en chacun de nous, et qu'il n'est pas mort, et qu'il alimente nos rêves les plus fous, nos aspirations les plus exigeantes vers un changement, une transformation de la société. Je crois que ce que nous a appris le surréalisme, au-delà de la révolte esthétique, c'était l'absolue nécessité de remettre en cause, toujours, ici et maintenant, les choses telles qu'elles sont. Ne pas nous satisfaire du monde tel qu'il est. Et cet état d'esprit, je crois, qu'il vit en nous, alimenté par nos fantasmes, par nos rêves d'indépendance, par nos rêves de libération à la fois individuelle et collective. Et c'est en cela que le ferment, le levain du surréalisme continue à nous travailler. Il ne faut pas déduire trop vite, je pense, de la débâcle du surréalisme en tant que école littéraire ou en tant qu'école artistique pour croire que l'esprit surréalisme a disparu. Je crois que partout où il y a une dénonciation des conventions, partout où il y a une dénonciation très forte des conformismes, quels qu'ils soient, ben, c'est une résurgence peut-être de l'esprit surréaliste. Lequel esprit surréaliste préexistait sans doute au surréalisme lui-même, le surréalisme ayant eu le mérite de le remettre en selle, de le réactiver, de le redynamiser pour que chacun de nous ne perde pas la mémoire du rebelle qui ne dort que d'un œil au fond de chacun de nous.